Bonjour à tous, c'est Laurine. L'épisode de Splash que vous vous apprêtez à écouter est rendu possible grâce au soutien de Livy, une application hyper pratique qui permet de consulter en vidéo un médecin à distance 7 jours sur 7 depuis son smartphone ou sa tablette. Par exemple, dimanche dernier, mon fils s'est réveillé avec l'œil tout gonflé. Bon, ça ressemblait bien à un orgelé, mais je n'en étais pas sûre et je ne savais pas du tout comment le soigner. Grâce à Livy, j'ai pu obtenir rapidement une consultation, puis une ordonnance, et en quelques jours, tout est rentré dans l'ordre. Poser toutes les questions à un médecin tout en restant chez soi, c'est ce que propose Livy. Et sachez que tous les patients ayant des symptômes du Covid ou ayant été en contact avec quelqu'un testé positif peuvent aussi obtenir une prescription de dépistage. Alors merci à Livy de soutenir Splash et bonne écoute!
Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
Enfin, juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission est comme la bonne mère, droite et fière face au Mistral. Aujourd'hui, un épisode qui nous emmène sur les chemins de traverse de la prohibition.
Pourquoi le cannabis est-il encore illégal ?
Certains pays comme l'Uruguay, le Canada ou encore certains États des États-Unis ont fait le choix récemment de légaliser le cannabis. Et la France n'est pas en reste puisque le gouvernement envisagerait la possibilité de dépénaliser la consommation de cannabis, c'est-à-dire de supprimer toute sanction pénale pour les usagers de cette drogue. Mais pour certains économistes, les intentions du gouvernement ne vont pas assez loin. Par exemple, pour Pierre Kopp, Christian Ben Lagdar et Romain Pérez dans un rapport de Terra Nova en décembre 2014, ou encore pour Emmanuel Auriol en 2016 dans son ouvrage « Pour en finir avec les mafias ». Tous envisagent la légalisation du cannabis comme une option sérieuse et préférable. Mais pourquoi des économistes s'invitent-ils dans un débat qui concerne avant tout la santé ?
Là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense.
Cela ne nous regarde pas.
Alors, il ne s'agit absolument pas de sous-estimer les effets parfois négatifs de la consommation de cannabis. Le rapport 2013 de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie a fourni un bilan très complet sur le cannabis et ses effets en faisant une revue de littérature mondiale de toutes les études cliniques rigoureuses. Et la conclusion est nette. Tous les usages du cannabis ne sont pas problématiques. Lorsque la consommation est modérée, limitée dans le temps et récréative, elle ne présente aucun danger sanitaire immédiat. Elle peut même convenir dans un cadre thérapeutique. Mais l'usage peut devenir risqué dans certains contextes. Si la consommation est précoce, avant 15 ans, ce qui augmente le risque de dépendance, en cas de grossesse, en cas de trouble mental, ce qui peut aggraver certains symptômes, s'il y a conduite d'un véhicule, ce qui augmente le risque d'accident. Et enfin, au travail, bien sûr, car la consommation de cannabis diminue la productivité et la concentration. Le cannabis est au fond assez similaire au tabac et à l'alcool. Un usage modéré de ces substances ne pose pas de problème, mais un usage fréquent ou dans certaines situations précises présente un réel danger immédiat pour la santé et la vie du consommateur. On peut toutefois noter que l'alcool et le tabac sont beaucoup plus mortels que le cannabis. Selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'alcool a été responsable de quasiment 50 000 décès en France en 2010. Le tabac, environ 80 000 morts la même année. Et le cannabis, à peine quelques-uns par an, essentiellement dans des accidents de la route. Mais les victimes présentaient à la fois des traces de cannabis et d'alcool dans leurs examens, donc il est difficile d'imputer le décès à la seule consommation de cannabis. Et pourtant, la réponse en termes de politique publique n'est pas la même. Autorisation pour l'alcool et le tabac et prohibition pour le cannabis.
Alors ça, c'est injuste.
Mais est-ce que c'est la bonne solution ? Et c'est là que les économistes peuvent contribuer au débat. Car la prohibition touche à des questions de production, d'offres, de consommation, de demande, de prix. C'est un marché, certes illégal, mais c'est un marché. Et là, on est dans notre élément. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'interdire tout bonnement le cannabis dans notre pays ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée directement par téléphone à Emmanuel Auriol, mentionné au début de l'épisode, économiste à la Toulouse School of Economics.
Donc la France, qui applique cette politique de prohibition, est un des pays d'Europe, notamment, qui est la plus stricte en matière de répression. Il faut savoir, c'est pas sûr que les auditeurs le sachent, mais il faut savoir que en fait l'usage en France et dans d'autres pays, hein, dans beaucoup de pays dans le monde, l'usage de drogues, notamment de cannabis, est sanctionné par la loi. C'est passible de prison, c'est passible donc d'une amende. Et à ce moment, il y a des grosses discussions pour savoir si on ne devrait pas transformer ça juste en une amende pour éviter que les gens aient un casier judiciaire. Donc la France applique ça, cette loi, plus ou moins bien, puisque c'est très difficile à appliquer. On a 11 millions de fumeurs, on ne va pas mettre tout le monde en prison. Donc on a quand même en gros 200 000 arrestations par an. Des gens qui sont des usagers et des trafiquants. Et il s'avère que sur ces 200 000 arrestations, 85% ou 90%, c'est des usagers. Donc, on a de la répression. En même temps, on a bien sûr de la consommation, puisqu'on est le premier pays au monde consommateur de cannabis. Donc, cette politique française est un échec complet. On encombre la police et la justice, parce que les procédures sont très lourdes pour la police.
Toutes les études confirment cette forte consommation du cannabis en France, notamment pour les adolescents. Selon une étude menée par Stanislas Pilka en 2012, à l'âge de 17 ans, un tiers des adolescents de France ont fumé du cannabis au moins une fois au cours de l'année précédente. 2 sur 5 au cours du dernier mois et 6,5% sont des usagers réguliers. Bilan des courses, la prohibition n'a pas les effets escomptés. Et donc, ça conduit à un usage inefficace des ressources policières et administratives.
Ce que je sais, c'est que les policiers eux-mêmes se sont saisis de ce dossier. Les syndicats de police demandent une contractualisation, donc des infractions à la législation sur les stupéfiants, parce que ça, c'est des procédures très très lourdes et ils perdent beaucoup de temps. Ils disent en moyenne c'est une heure, voire deux ou trois, selon les dossiers, pour chaque arrestation. S'il y en a 200 000, vous multipliez le nombre d'heures qui flambent dans ce genre de procédure, avec un résultat qui est nul, parce qu'au final, on ne va pas mettre en prison, enfin en tout cas, en général, on ne met pas en prison quelqu'un qui est un simple consommateur.
Dans un rapport du think tank Terra Nova, publié en décembre 2014, ses auteurs Pierre Cobb, Christian Benagdar et Romain Pérez estiment le coût total de cette politique de répression pour l'État à 568 millions d'euros en 2014. Calcul effectué essentiellement à partir du nombre d'interpellations, sachant que la grande majorité d'entre elles sont classées sans suite. Et ça conduit à décrédibiliser l'État. La menace de sanctions n'est pas perçue comme crédible. De nombreux individus n'hésitent donc pas à consommer du cannabis dans la rue, dans le métro. En tout cas, c'est assez net à Marseille. Pour parler des usages et du trafic de cannabis dans ma ville, j'ai rencontré Claire Duport dans les locaux du Centre de recherche Addiction Méditerranée dans le 1er arrondissement de Marseille. Elle est sociologue spécialiste des drogues et elle confirme pour le cas marseillais.
Ça m'est arrivé quelquefois d'aller au stade Vélodrome. Ça sent le shit dans toutes les travées. Et là, ça pose de problème à personne.
Il est même possible que cette politique de prohibition soit contre-productive, c'est-à-dire qu'elle conduise à un effet contraire à ce qui est recherché. Ça peut paraître assez paradoxal, mais voici les explications d'Emmanuel Auriol.
Parce qu'on est dans une situation dramatique où en fait le marché du cannabis est un marché concurrentiel. Donc c'est un marché où il y a énormément d'offreurs, il y a énormément de produits disponibles, on en trouve partout. Et du coup, bah, évidemment, c'est une drogue qui est bon marché, et c'est, enfin relativement bon marché. Et ça, c'est très disponible. Donc cette conjonction de très très disponible et bon marché fait que elle est très consommée, notamment alors par les mineurs. C'est ça qui est pour moi très inquiétant, puisqu'ils sont à peu près à 40% à avoir expérimenté avec le cannabis avant 15 ans. Hein, donc c'est dramatique.
Comme c'est un marché illégal, l'État ne peut pas imposer une TVA ou une taxe spéciale comme pour le tabac. Et donc les prix sont faibles. Or, les consommateurs sont très sensibles au prix du cannabis. C'est ce qu'on a observé aux États-Unis dans les années 1980 et 90. quand le président Reagan a initié la fameuse guerre contre la drogue, pas seulement du cannabis, mais bien de toutes les drogues. Résultat, des opérations policières spectaculaires, avec le démantèlement de cartels célèbres au Panama, au Mexique ou encore en Colombie. Sauf que ces quelques cartels qui contrôlaient le marché ont été très vite remplacés par de petites structures criminelles qui se sont livrées à une très forte guerre des prix. D'où ce terrible paradoxe, plus les saisies de drogue étaient importantes, plus les prix diminuaient et plus la consommation de drogue augmentait aux États-Unis. Et si cette guerre ne peut pas être gagnée, pourquoi ne pas envisager d'y mettre un terme ?
D'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que légaliser, c'est pas libéraliser. C'est même presque tout le contraire. Légaliser, c'est donner un cadre légal. C'est pas laisser faire n'importe quoi. Voilà.
Les économistes qui s'intéressent à cette question reprennent les termes ici utilisés par Claire Duport. Et ce cadre insisterait davantage sur la demande, en s'inspirant par exemple de ce qui a été fait en France pour l'alcool.
La raison pour laquelle je crois c'est possible hein, qu'on ait une diminution des consommations, c'est qu'on a réussi à faire ça pour l'alcool. Notre pays était un point aberrant hein, dans la distribution mondiale de consommation d'alcool. On consommait en gros le double hein, de la moyenne européenne en alcool pur par personne et par an dans les années 70. Et aujourd'hui, on est dans la moyenne haute européenne, c'est-à-dire on a diminué de moitié la consommation d'alcool pur par personne et par an en gros en 40-50 ans. Et on n'a pas fait ça avec une politique de prohibition. On a fait ça avec une politique de demande, c'est-à-dire on n'a pas fait une politique de l'offre, on a fait une politique de la demande. On a mis en place d'abord des restrictions sur la distribution de l'alcool, des restrictions sur la publicité. On ne peut pas faire la publicité sur l'alcool comme on l'en faisait autrefois. On a mis en place de l'éducation. On a expliqué aux gens que c'était addictif, l'alcool, que boire tous les jours, c'était dangereux. Donc, quand on regarde les consommations des Français, eh ben, ils consomment de manière plus intelligente, c'est-à-dire ils consomment en famille, en général, le week-end. Ils ne vont pas boire à tous les repas du vin, ce qui était la source d'alcoolisme et de maladies premières dans notre pays. Donc ces succès-là, ils sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé l'alcoolisme ni la consommation d'alcool, mais on l'a maîtrisé. Et je crois que c'est un succès.
Comme vous pouvez l'entendre, les économistes comme Emmanuel Auriol ne prennent pas comme objectif faire plaisir à une partie de la population, les fumeurs de cannabis. Ils s'échinent à redéfinir une politique publique qui vise au final à réduire les usages à risque du cannabis. Et ce, de plusieurs manières. Premièrement, en augmentant les prix par des taxes importantes dans le cadre d'une offre contrôlée par l'État. Deuxièmement, en menant une politique active de prévention par la publicité, par les conseils que pourraient donner les vendeurs de ces produits dans les futurs magasins de vente de cannabis. Troisièmement, en contrôlant la qualité des produits vendus pour éviter tout ajout de substances nocives. Et dernièrement, en contrôlant les acheteurs, par exemple en interdisant la vente de cannabis aux mineurs. Et cette politique coûterait globalement moins cher, avec notamment des recettes bien plus importantes avec les taxes perçues. Le rapport Terra Nova table sur des recettes qui dépasseraient facilement le milliard d'euros. Et les dépenses de ressources policières et administratives diminueraient, mais ne disparaîtraient pas, et c'est un point sur lequel insiste Emmanuel Auriol.
Donc l'avantage de changer l'organisation hein, de ce marché, de le légaliser avec une taxation appropriée et un contrôle de la distribution, notamment le fait qu'on doit être majeur pour pouvoir en acheter, eh bien, cet ensemble de dispositifs, ça va permettre de pouvoir se concentrer sur les criminels qui subsisteraient dans le marché hein, et évidemment de concentrer l'effort de répression sur eux. Et là, on peut être crédible, c'est-à-dire que si on chope quelqu'un en train de vendre du cannabis dans la rue, celui-là, il ne faut pas qu'il s'attende à beaucoup de clémence. Et ses clients non plus d'ailleurs, hein, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une officine à côté où ils peuvent se fournir, c'est plus cher, mais c'est légal. Donc il faut être bien bien ferme là-dessus. Et ça, je crois que ça peut fonctionner. Par exemple, si on prend le cas de l'alcool, on n'a pas dit aux gens c'est interdit de boire, parce que si on avait dit ça, c'est ridicule, ça ne marcherait pas, et les Français, ils continueraient à boire en cachette, ou plus ou moins en cachette, et donc on aurait une loi qu'on ne peut pas appliquer. Mais ce qu'on a dit, et qu'on applique, c'est qu'on ne peut pas boire quand on conduit. Et les gens savent très bien que s'ils conduisent en état d'ébriété, notamment le samedi soir, hein, c'est là où les gens ont tendance à boire, eh bien, ils ont un très grand risque de croiser des contrôles sur leur route et de se faire sucrer leur permis. Donc ça, c'est devenu une menace crédible. Donc là, l'État, vous voyez, il s'est concentré sur quelque chose qui est applicable et il regagne évidemment légitimité.
Et c'est sans compter, bien sûr, sur les emplois créés. Environ 13 000 emplois supplémentaires à envisager selon les calculs du rapport Terra Nova. Parmi ces nouveaux emplois, on aurait des cultivateurs, des vendeurs, tous les intermédiaires qui vont de la production à la vente finale, et puis tous les emplois nécessaires à faire tourner les entreprises. En Californie, c'est un business florissant, où les entreprises rivalisent d'imagination pour vendre leur cannabis désormais légal. Ces entreprises embauchent des ingénieurs pour concevoir des cigarettes électroniques ultra-design à l'huile de cannabis. Elles embauchent des agents de sécurité, des livreurs, des informaticiens pour concevoir des applications d'aide à la consommation. Et puis existent maintenant aussi des critiques de cannabis, un peu sur le modèle des critiques de vin en France, mais pour la weed. C'est vrai que là-bas, ils font pas les choses à moitié. Il faut bien sûr prendre avec précaution tous les chiffres de projection qu'on a pu donner. Mais ce que ces économistes nous enseignent, c'est que la prohibition n'est peut-être pas le meilleur moyen de réduire les usages risqués du cannabis. La fiscalité et la prévention sont des options à prendre au sérieux. Et c'est même possible de jouer finement avec l'arme de la fiscalité. On met d'abord une faible fiscalité pour récupérer tous les acheteurs de cannabis et assécher les ventes des réseaux criminels. Et une fois que les réseaux de trafiquants sont très affaiblis, on peut se permettre dans un second temps d'alourdir la fiscalité pour faire augmenter les prix et ainsi diminuer la consommation de cannabis.
Mais personnellement, même si ce sont des externalités positives pour la société, tout ça, moi, ma préoccupation, c'est plus une préoccupation de contrôler les quantités échangées et de remettre un peu d'or dans ce marché, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui en sont victimes, des trafiquants.
Mais alors, que deviendraient les réseaux de vente illégale de cannabis ? Certains vont probablement vendre d'autres drogues. Mais face à la diminution globale de la demande de produits illicites, certains trafiquants ou vendeurs vont devoir se reconvertir. Car leurs revenus ne sont pas si élevés que ça. Revenons sur quelques idées reçues concernant le trafic à l'aide de la sociologue Claire Duport.
C'est une économie capitaliste, libérale, certes teintée de violence et de menaces, parce que c'est une économie criminelle, mais ça fonctionne pareil. C'est ce que disent la plupart des gens, c'est comme à Carrefour. Pour un patron et quelques actionnaires qui s'en mettent plein les fouilles, il y a des centaines, des dizaines, des milliers de petites mains qui travaillent aux différents niveaux d'échelons d'organisation.
Et ces petites mains ont des revenus issus de la vente de drogue assez modestes. Au final, les quartiers où se vend la drogue ne sont pas des quartiers qui vivent de la drogue.
On est très très loin de cette extrapolation qui fait que parce qu'il y aurait beaucoup d'argent, et effectivement dans un réseau, une ou deux ou trois personnes vont gagner beaucoup d'argent. D'accord ? Mais parce qu'il y aurait beaucoup d'argent, cet argent serait partagé entre tous les habitants d'un quartier. D'ailleurs, d'abord celui qui gagne cet argent, il le garde pour lui, tant qu'à faire. Et puis ensuite, il ne fait que payer des services à un tout petit nombre, en fait, de gens. Ce qui veut dire qu'en fait, l'immense majorité des habitants d'un territoire où est implanté un réseau de trafic de drogue, cette immense majorité, elle en est d'abord victime elle-même de cette activité. Alors, pas victime au sens où elle serait directement menacée. Vous voyez, on n'est pas dans les cartels mexicains où les meurtres se font à tour de bras, y compris de gens qui n'ont rien à voir avec ces activités. On est très loin de ça en France. Mais directement impliqué au sens où une activité de trafic de drogue, elle affecte la vie sociale d'un quartier. Il y a des gens qui guettent, alors les voisins ont un peu peur quand les enfants partent à l'école le matin. Enfin voilà, eux-mêmes sont les premières... victime avec un tout petit V, mais victime de ses activités. Elle se retrouve, vous voyez, il y a comme une histoire de double peine là-dedans. C'est que les habitants des territoires où les trafics sont impliqués sont à la fois, subissent à la fois les dommages liés à cette activité et subissent le regard social qui les désigne comme des complices de cette activité. C'est une double peine insupportable, vraiment insupportable.
Si les réseaux de vente de drogue venaient à reculer avec la légalisation du cannabis, l'image de ces quartiers pourrait changer. On observe déjà les premiers effets de la légalisation du cannabis en Californie. Les réseaux mafieux n'ont pas disparu, mais on note une baisse de la criminalité de 13% en moyenne, selon un article de 2017 de la revue The Economic Journal. On peut alors imaginer de nouvelles politiques ambitieuses vis-à-vis de ces quartiers. Politiques de formation, d'implantation des services publics, de soutien de commerces locaux, etc. Et les anciens trafiquants alors?
Il ne faut pas imaginer que les vendeurs de cannabis dans la rue rêvent d'être vendeurs de cannabis. Et que donc, de ce fait, ils deviendraient des vendeurs de cannabis dans un magasin. Souvent, ce n'est pas ça du tout leur rêve, vous voyez. Donc, envisager de la formation, du reclassement professionnel, etc. Bien sûr, mais pas nécessairement, et même voire pas du tout. Alors, il y a des expériences qui ont été menées à New York. Je crois que c'est à New York. Et je sais par d'autres gens, moi je ne le connais pas directement, ce chercheur, mais je sais par d'autres gens qu'il est aussi très impliqué dans les ce qui équivaudrait aux centres sociaux, vous voyez, dans des quartiers très pauvres de New York.
Elle mentionne ici un sociologue qui s'appelle Terry Williams et son ouvrage « Cocaine Kids ».
Et qu'il a beaucoup travaillé à ce qu'on pourrait appeler au reclassement professionnel de ces gamins qui vendent de la cocaïne dans la rue. Et ces gamins, ils deviennent musiciens, journalistes, vendeurs de blue jeans, cuisiniers, et pas vendeurs de cannabis dans un magasin dans le Colorado, vous voyez. Donc l'idée, c'est, en tous les cas, le travail qui avait été fait dans ces expériences, qui est toujours fait, je crois d'ailleurs, c'est de permettre à ces gamins d'aspirer au plus près à leurs rêves, à leurs souhaits professionnels, et pas forcément d'un reclassement direct.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabac produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Marine Rowe, mixée par Laurie Galigani, coordonnée par Laura Cuissard. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, sur Instagram et Facebook sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite !